Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
Nous serons avec Laurent Gérard et toute son équipe dans quelques minutes, mais à 8h42 sur RTL. Notre revue de presse, Amandine Bégaud. Et d'abord, 2018-1789, Amandine, même combat.
Oui, alors qu'Emmanuel Macron donne aujourd'hui le coup d'envoi du grand débat national dans l'heure, le journal Le Courrier de l'Heure est allé fouiller dans ses archives et l'hebdomadaire a retrouvé une revue publiée en 1989 à l'occasion du bicentenaire de la Révolution et qui analysait le contenu des fameux cahiers de doléances de 1789. Alors les résultats, vous allez le voir, sont étonnants, car si la langue, bien sûr, a changé, les préoccupations, elles, rappellent celles d'aujourd'hui. Comme en 2018, par exemple, la question de la fiscalité est de loin celle qui revient le plus, 118 fois dans le seul cahier du tiers-état d'Évreux. Il y a ceux qui dénoncent une mauvaise répartition, ceux qui s'insurgent contre les privilèges fiscaux ou encore contre leur mauvaise perception, ceux qui réclament aussi l'abolition, non pas des taxes sur l'essence, hein, mais de la gabelle, cette taxe sur le sel. Il y a aussi ceux qui s'insurgent contre la hausse du prix des céréales ou encore contre la libéralisation du commerce, notamment avec l'Angleterre, accusée, je cite, d'augmenter le nombre de pauvres. Les similitudes, je vous avais prévenu, sont étonnantes. Peut-on pour autant comparer 2018 et 1789? Eh bien, pas tout à fait, répond ce matin l'historien Guy Lemarchand, c'est à lire dans les colonnes de Paris-Normandie. En 1789, lorsque Louis XVI lance les états généraux, c'est, explique-t-il, un grand espoir qui naît pour la population. Louis XVI devient d'ailleurs le bon roi, pas pour longtemps certes, mais le bon roi quand même. Aujourd'hui, poursuit l'historien, cette consultation est tellement fréquente qu'elle intéresse moins. Les citoyens pensent que leur parole ne sera pas prise en compte. En 1789, hein, toutefois, rappelle l'expert, l'illusion ne sera que de courte durée puisque début juillet, soit deux mois après le début des états généraux, le roi veut les annuler. Il capitulera quelques jours plus tard avec la prise de la Bastille. Les états généraux deviennent alors, rappelle-t-il officiellement, l'Assemblée nationale constituante.
Alors, ce grand débat, celui d'aujourd'hui bien sûr, il est lancé dans le département de l'Eure.
Oui, à Grand-Bourg-Théroult, d'abord pour des raisons pratiques. C'est proche de l'autoroute, nous disait tout à l'heure sur RTL Pauline de Saint-Rémy. Mais pas seulement, hein. C'est ce qu'on découvre ce matin dans Ouest France. Cette commune, explique le maire de la ville, vote comme la France, avec un tiers d'actifs, un tiers de jeunes et un tiers de retraités. On est, dit-il, choisi à chaque élection comme panel représentatif par l'Institut Ipsos. Autre élément qui a sans doute pesé aussi dans ce choix, la place de la voiture dans le quotidien des Théroultes bourgeois. Et oui, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Grand-Bourg-Théroult. 80% des actifs de la commune travaillent tous les jours à une trentaine de kilomètres de chez eux, à Rouen, chez Renault Cléon notamment. La question de la mobilité, celle de la taxe carbone, mais aussi des 80 km/h est, explique le maire, de loin la question la plus citée dans les cahiers de doléances qu'il remettra tout à l'heure au chef de l'État. Juste derrière, précise-t-il, on trouve le retour de l'ISF, l'augmentation du pouvoir d'achat et les petites retraites. Grand-Bourg-Théroult, c'est une commune que connaît très bien Sébastien Lecornu, l'un des deux ministres qui a été chargé d'animer ce grand débat. C'est d'ailleurs, explique ce matin Le Figaro, lui qui a suggéré au chef de l'État de lancer le grand débat de là-bas pendant deux ans, jusqu'à son entrée au gouvernement. Lecornu a dirigé le conseil départemental de l'Eure. Il fut aussi maire de Vernon, à 60 km de là. Aujourd'hui, à 32 ans, le voilà donc propulsé aux avant-postes. Mais ça lui va bien, si l'on en croit un poids lourd du gouvernement qui ne tarit pas d'éloges. Écoutez plutôt Lecornu, dit ce ministre, il est volontaire, il aime monter en première ligne, c'est une sorte de sapeur-pompier, comme on dit dans l'armée, un homme du génie armé, de sa pelle et de son tablier, qui construit les fondations, parfait donc pour le job. Fin de citation. À ses côtés, Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, c'est elle, hein, souvenez-vous, qui avait répondu au mois de novembre à Jacqueline Mourot. C'était le tout début du mouvement des Gilets jaunes. Mmh. Elle aussi, note Les Échos, a bien des qualités. Elle connaît parfaitement, explique le journal, les secteurs de la santé et de l'emploi. Son père est celui à qui l'on doit le RMI. Et oui, elle, aux côtés de Martin Hirsch, a travaillé, pensé le RSA. Dernier point, elle est mariée à un urgentiste. Et ça tombe bien, conclut le journal, il y a le feu. Tiens, à propos de santé, je voulais juste vous signaler cette enquête qui est relayée ce matin par La Croix. 60 à 80% des patients mentent à leur médecin. C'est ce qui ressort de deux études publiées ces jours-ci. Mensonge par peur d'être jugé ou d'être réprimandé, hein, le plus souvent. Mais rassurez-vous, les médecins le savent. Ils ont par exemple l'habitude de multiplier par deux la quantité d'alcool que leurs patients disent consommer et de diviser par deux l'activité physique déclarée. Le phénomène d'ailleurs est vieux, non pas comme la Révolution, mais comme le monde. Hippocrate, et oui, la Grèce antique l'écrivait, le médecin doit savoir que les patients mentent souvent lorsqu'ils disent suivre leur traitement. Ça, c'était donc dans l'Antiquité.
Et Michel Simès nous rappelait récemment qu'il était habitué à ces fameux menteurs. C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.